les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Ondes Buissonnières, notre émission consacrée aux pépites sonores de la radio. Aujourd'hui, nous allons écouter les deux premiers épisodes du podcast de rue, une série réalisée par Sarah Jacquet. Intitulée « La licorne, l'escargot et un soir d'été au skatepark », nous allons suivre le quotidien des jeunes de Cré à travers ces deux épisodes. Ensuite, nous entendrons le premier épisode de la série Tout fout le camp de Manon Prigent, On est toujours le jeune de quelqu'un. Et enfin, nous conclurons avec le premier épisode de la série Ado, j'écoute, sexuellement transmissible de Claire Auter. Bonne écoute.
Podcast de rue. Rencontrées à la sortie du lycée, dans la ville,
au skatepark, les filles
et les garçons racontent comment la jeunesse pense, ce qui la met en rage,
de quoi sont faits ses rêves,
ce qui lui donne de l'espoir.
Comment vivre les années lycée,
la question du genre,
les études,
ou pas,
partir,
ou rester.
Podcast de rue, une série de podcasts tournés,
à créer,
par Radio Saint-Ferréol,
en collaboration avec les éducateurs de rue
de la Drôme. Épisode 1, la licorne et l'escargot.
Dans le monde, nous sommes plus de 7 milliards de personnes. On peut dire que le genre et la sexualité de chacun, chacune de nous est différente. Il y a un genre et une sexualité par personne. Plus de 7 milliards de genres et de sexualités.
Hé, hey, tu fais la journée internationale du droit des femmes demain?
Moi j'étais en mode... Bah en fait, je considère qu'on ne devrait pas une journée, mais une année. Une année permanente, mais une année, pas qu'une année.
Déjà, il n'y a pas que des femmes dans les personnes assignées femmes à la naissance, de un. Et de deux, c'est journée internationale des droits tout court en fait. Genre ça devrait être égal à tout le monde.
Et du droit des femmes et des droits des hommes. Et des droits de tout en fait.
Et oui, le droit de tout le monde.
Le droit de vivre tout court, c'est pas mal.
Je me demandais si c'est des questions qui vous travaillent, la question du genre, de l'orientation sexuelle, tout ça.
Pas moi personnellement, pas trop, mais j'en entends parler.
Je suis femme et je me sens femme. Et puis je suis totalement hétéro, donc je me pose pas trop de questions sur ça. Puis que ce soit moi ou toi, je pense, on accepte totalement les gens qui sont homosexuels ou lesbiennes ou toutes les personnes. Hein.
Bah une personne est une personne.
C'est ça,
hein. On doit l'accepter comme il est. Hein.
Moi de toute façon, je me suis jamais vraiment reconnu en tant que garçon quand j'étais petit, parce que on pensait pas que je pouvais être un garçon. On me donnait que des qualités de fille et on me disait tu peux pas être un garçon, t'as pas de qualité masculine entre guillemets. On me disait que j'étais beaucoup trop gentil pour être un garçon, que j'étais trop intelligent, j'avais de trop bonnes notes, et on me disait que j'étais beaucoup trop sensible et que je pleurais trop. Physiquement, j'étais un garçon, mais tout ce qui était plus comportementalement ou mentalement, j'étais pas un garçon. C'est comme ça que les autres me définissaient autour de moi. Puis je me suis dit, ben, si c'est plus facile pour moi d'être une fille, comme ça je me ferai plus embêter.
Donc ça, c'est le sexe assigné à la naissance, ça a monté par tes génitales. Et après, tu peux avoir une identité de genre différente. Donc ça, c'est comment tu te sens toi à l'intérieur.
Moi, je m'appelle Mathilde. Je suis en formation au planning familial de Marseille en ce moment.
Moi, c'est Merle. Je connais Mathilde parce qu'on fait toutes les deux parties d'une association qui veut faire de l'éducation à la vie sexuelle et affective.
Du coup, j'ai fait un stage avec les éducs de rue à Cré. Et en fait, ils m'ont proposé d'animer... une charrette, donc la charrette c'est ce format là entre midi et 14h qu'ils animent devant le lycée Morin sur le genre et les sexualités.
Voilà, souvent on pense que avoir un pénis ça veut dire que dans ta tête t'es un garçon, ça veut dire que t'aimes les femmes et les filles, c'est un peu le schéma classique. Et du coup la licorne elle montre un peu que ces trucs peuvent être séparés.
On a proposé un outil qui s'appelle la licorne du genre. C'est une licorne et il y a différents critères sur cette licorne qu'on peut rentrer, il y a des curseurs. Le premier critère, c'est l'identité de genre. Du coup, c'est comment on se sent par rapport au genre. Donc, il y a trois lignes. Il y en a une, c'est femme-fille. L'autre, c'est homme-garçon. Et la troisième, c'est autre genre. Et du coup, il y a des curseurs. Donc, on peut mettre le curseur à fond de fille, par exemple. Mais on peut aussi le mettre à moitié de fille, à trois quarts de garçon. Enfin, voilà. Le deuxième critère, c'est expression de genre. Donc ça, c'est plutôt les vêtements, la coiffure, le maquillage, comment est-ce que les personnes nous perçoivent et comment on exprime notre genre. Après, il y a le sexe assigné à la naissance. Et après, il y a attirance sentimentale et attirance sexuelle.
L'éducation sexuelle, la prévention
Pour les filles, oui.
Pour les garçons,
pour les garçons.
En troisième,
Oui, en troisième.
Pour moi, il s'en va rien, hein. Les cours d'éducation sexuelle du collège.
C'est plus pour la protection, comment se protéger, etc. C'est pas par rapport...
L'année dernière, ils ont parlé des règles. Genres.
Mais ouais. Ça parle pas trop des genres, etc. Des trucs comme ça.
Et comment vous vous informez sur tout ça, en fait ?
Les réseaux sociaux.
Ma mère.
TikTok.
Instagram.
Il y a des comptes que vous suivez en particulier
Période. Sur Insta. C'est un peu sur tout. C'est un peu féministe. Enfin, on parle de beaucoup de choses sur ce compte-là. Il est parfait.
La société t'indique comment te comporter pour être un homme ou une femme. La manière de bouger, de s'habiller, les loisirs sont censés être différents pour le genre féminin et le genre masculin. Ces normes évoluent selon la vision de la société. C'est une construction sociale.
Ce serait quand même plus facile d'être escargot parce que du coup, bah, on pourrait choisir notre sexe.
Ouais, mais il y a d'autres points négatifs chez les escargots. Genre, ils peuvent pas jouer au foot. Il y a un tas de trucs chiants quand même.
Ils sont lents un peu. Ils mangent que de la salade.
On appelle les gender fluides les personnes qui se sentent à certains moments hommes et à d'autres moments femmes, à d'autres encore à genre. Et d'autres ne se définissent ni homme, ni femme, ni à genre. Ce sont les personnes du troisième sexe.
Je trouve ça compliqué et relou de toujours devoir nous donner entre guillemets des cases et nous dire bon vous êtes né avec tel sexe donc tel genre tout ça et je trouve pas ça cool de nous forcer en fait à être ce qu'on veut pas forcément être. C'est pour ça que je me dis qu'en étant escargot, vu que je sais plus comment on dit qu'ils sont, je crois que c'est hermaphrodite ou quelque chose comme ça.
Hermaphrodite.
Ils ont pas entre guillemets ce souci de se dire je suis né homme, je suis obligé d'être un homme ou je suis né fille. Ou... comme par exemple aussi quand on est avec un peu un mélange des deux, je crois que c'est intersexe ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben le médecin il choisit le sexe que l'enfant va garder. Enfin. Autant ça ira pas à l'enfant, il sera né pour être femme, mais on lui aura choisi le sexe garçon à la naissance, c'est pas juste quoi. C'est un peu à nous de choisir ce qu'on veut être et ce qu'on va faire dans notre vie. Il faudrait qu'on prenne un peu plus en considération les jeunes, je pense.
Donc, avec tous ces possibles, on crée un triangle de l'orientation sexuelle au sein duquel toutes les options sont possibles. Et malgré tous les noms déjà définis, c'est à toi de choisir comment tu t'identifies. Et toi, tu te situes où ?
Ben, je suis tout simplement un homme pas encore défini par ses attirances parce que ben, j'ai des soucis avec le genre féminin en général, mais en même temps, j'ai une attirance confirmée à 100% pour le genre masculin. Et en même temps, ça me dérange pas non plus les transgenres, les non-binaires, tout ça, donc je pense que je suis une forme de pansexuel, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Tout ce dont je suis sûr, c'est que je suis un homme pour le moment.
Bah oui, on avait préparé quelques petits autres supports. On avait choisi une question. La question c'était est-ce hétéro, c'est ringard ?
Est-ce que vous avez déjà entendu, genre, c'est à la mode d'être LGBT ou des trucs comme ça ?
Ouais. Bah, chacun peut être comme il est, il n'y a rien qui est ringard. Enfin, hétéro ou homo, c'est pas ringard quoi.
Et je me suis pris en photo devant le drapeau LGBT parce que ben, je suis fier de ce que je suis et que ben, j'ai envie de. D'avoir des souvenirs avec mes amis, de notre fierté et de ce qu'on est, quoi. À partir du moment où, en fait, on trouve un groupe ou des gens sur qui s'appuyer, tout est beaucoup plus facile. On arrive à s'affirmer, à être ce qu'on veut, à faire ce qu'on veut. Et puis maintenant, je me pose plus trop de questions, juste je laisse les choses venir et moi, je suis très heureux comme je suis. Et puis je profite de ma vie.
C'était La Licorne et l'Escargot, épisode 1 de la série Podcast de rue. Prise de son, réalisation et montage, Sarah Jacquet.
Merci
aux éducateurs de rue,
à Mathilde et Merle,
ainsi qu'à tous les jeunes qui se sont prêtés au jeu
de prendre la parole.
Podcast de rue.
Rencontrés à la sortie du lycée, dans la ville,
au skatepark, les filles
et les garçons racontent comment la jeunesse pense, ce qui la met en rage,
de quoi sont faits ses rêves,
ce qui lui donne de l'espoir.
Comment vivre les années lycée,
la question du genre,
les études
ou pas,
partir
ou rester.
Podcast de rue, une série de podcasts tournés
à créer
par Radio Saint-Ferréol
en collaboration avec les éducateurs de rue
de la Drôme.
Podcast de rue, épisode 2, un soir d'été au skatepark.
Boum, bam et bim.
Boum, bam, bim.
Des bruits comme ça, par exemple.
La planche qui claque par terre, moi je dirais. Les trottinettes là qu'on entend. Je sais pas si on pourra écouter, mais ça tape contre le béton, le métal et le bois. C'est ça, ça me fait penser au skatepark, c'est ça, tout de suite.
Une belle vue sur la tour de Cré, des belles bosses sur le pump track et au skatepark, des belles rampes, des beaux slides, des belles courbes à prendre.
On fait des bosses, on fait des pentes, on descend dans des marches, on s'élance dans des pentes qui sont raides. Et là, c'est bon, il y est, à notre parc. Regarde.
Et autour... c'est vert, il y a un petit lycée. Et juste en bas, la Drôme.
Le skatepark, il est au bord de la rivière, mais de l'autre côté du centre-ville. C'est un peu loin. Ils auraient dû faire une passerelle là plutôt que de rallonger le pont. Il y avait le choix entre faire une passerelle sur le pont pour agrandir pour les piétons ou faire du skatepark au cinéma, un pont en plus. Pour directement traverser, parce que moi par exemple qui habite vers Carrefour, je dois faire tout le tour pour revenir ensuite juste en face.
Il est 21h28. Il fait chaud en été la journée, bien principalement le soir. Surtout qu'il y a les lumières du skatepark, du coup c'est pratique. Skatepark local. Là par exemple il n'y a pas grand monde, mais des fois souvent plus le soir il y a plus de monde et il y a une bonne ambiance. C'est souvent des gens sympas qui viennent ici.
Il y a plein de gens qui viennent faire du sport déjà. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi juste pour rencontrer des gens, je pense. Tu rencontres facilement des gens, si t'es tout seul, les gens ils vont venir vers toi. Moi, je sais, il y a un truc que j'adore quand je dis que je fais du skate, c'est que je viens au skatepark, je suis pas très fort, et puis il y a des gens que je connais pas qui sont plus forts, ils vont venir m'aider. Et c'est comme ça aussi que je rencontre des gens, et c'est cool. Moi, c'est ça, faire du skate.
Il est à moi le Sky. J'ai eu à mon anniversaire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que mes parents ils disent que je vais rentrer en période d'adolescence. C'est en fait, il y a plein de jeunes. Moi, je trouve que c'est ça ce qui est bien. Qu'il y a plein de jeunes.
Il y a plusieurs communautés, il y a le vélo, le skate, la trottinette, les rollers. Avant je faisais de la trottinette, maintenant je passais sur le vélo, ça fait un bon bout de temps. Et ouais, j'aime bien la communauté vélo.
Il y a une philosophie et on va dire il y a aussi on va dire un mode de vie. Souvent le skate on l'apparente on va dire aux années 90, on va dire hip-hop. Et par exemple il y a un style vestimentaire ou style de musique. Mais après ça tout dépend des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, s'en foutent de ça. Et...
Ouais,
fois on était là. Souvent il y a un groupe à un certain banc et un groupe de l'autre côté du skatepark, un autre banc. Puis il y a un mec qui est arrivé en voiture avec des gros caissons à l'arrière de la voiture. Il a commencé à mettre de la techno à fond et puis tout le monde a commencé à danser devant la voiture. C'était marrant. Moi ça m'a fait rire qu'il a débarqué comme ça. Il a ouvert son coffre et puis boum boum. Il y a eu plein de sons, c'était cool. Moi je sais que ma mère par exemple, au début elle aimait pas trop que je vienne le soir. Les jeunes à créer, comment dire, ça fume facilement et tout ça, mais en vrai c'est tranquille. Moi j'ai jamais eu d'embrouille ou quoi. Il n'y a jamais eu des gens qui sont venus me faire chier. C'est juste, ouais, je pense qu'il y a ça, qu'il y a une petite réputation. En plus, il y avait eu un documentaire à un moment où, bah, maintenant que je viens souvent et qu'elle voit que ça se passe bien, j'entends plus parler de ça. Après, je pense qu'il y a encore des adultes qui voient ça comme ça.
Il y a déjà eu des concours de skate ici, donc il est quand même assez connu. Puis il y a pas mal de gens en vacances qui sont pas de Cré et qui viennent souvent ici.
Dans les gens qui font du sport, c'est vrai que moi je vois beaucoup plus de garçons. Ça, je sais pas comment faire. Ce serait mieux que ce soit plus mélangé, on va dire. Mais après, je pense que ça change un peu. Mais je sais qu'à l'époque, il y avait eu des histoires et des filles qui venaient faire la trottinette et puis qui se faisaient embrouiller. Donc, en mode, c'est pas pour toi la trottinette. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Je vois pas de raison. Je trouve ça un peu inexplicable. C'est le lieu central des jeunes à Cré. Enfin, pour moi, c'est là où je retrouve plein de gens, je rencontre plein de gens. Et c'est quasiment que ici parce que c'est le seul endroit où il y a un peu une activité à faire dans Cré. Non, je sais pas. Cré, c'est spécial.
Et il y a des adultes qui ont fait du skate.
Et ça te fait rire, ça?
Oui, parce qu'ils tombent. Je suis pas petit. C'est toi qui es petit.
C'était Un soir d'été au skatepark, épisode 2 de la série Podcast de rue. Prise de son, Chloé Dréan et Sarah Jacquet. Réalisation et montage, Chloé Dréan. Merci à tous les skateurs et skateuses qui ont accepté de parler à notre micro.
Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro.
Qu'en pense la jeunesse?
Cette nouvelle émission est consacrée aux problèmes qui préoccupent la jeunesse.
Ah, ça date d'où? Ça doit être avant 1980, sûr. Mais regarde comment il parle.
L'Institut National de l'Audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter... Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Prigent.
Pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
La façon dont il parle, ils ont une prestance.
Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler ?
Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant ? Qu'y a-t-il derrière cet avant ? Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans ? Épisode 1, on est toujours le jeune de quelqu'un. Il y a comme une mélodie propre à chaque époque. Le cinéma, la musique, les médias gravent en nous un rythme, une intonation, une manière de placer sa voix. Cette petite musique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'air du temps. Mais très vite, un air du temps en chasse un autre et l'on se dit « tout fout le camp ». Pourquoi notre manière de parler se transforme-t-elle autant ? Pour ce premier épisode, écoutons les archives avec de jeunes oreilles.
Vous n'êtes pas réunis pour vous ennuyer, j'imagine.
Ah non, non, pas du tout, au contraire. Et en plus, au sein du club, nous avons toutes nos distractions personnelles.
Ce que vous devez à votre propre imagination. Vous avez voilà. Un local ?
Nous avons un local qui se trouve dans le plus grand immeuble de Trouville.
Oui. Il est décoré ?
Chauveur, oui, depuis Pâques, par nos soins même.
Alors là, pour le coup, c'est vraiment le Moyen-Âge. C'est choquant.
Le bureau a été formé uniquement par des gens qui ont pris la responsabilité...
Ils ont quel âge, là ?
D'une activité.
D'une activité et d'amuser les autres par la suite.
20 ans, là, à l'époque ? Ils sont trop sérieux, on dirait. Plus tard, président... À 20 ans, normalement, tu profites un peu de la vie, je sais pas, tu t'amuses. On dirait qu'ils sont déjà sérieux. Ils sont trop sérieux.
Secrétaire, que sera-t-il,
le secrétaire ? Ben, il espère être ingénieur dans le pétrole, si toutefois les voitures marcheront encore au pétrole.
Alors, tu penses qu'on est dans quelles années, là ?
1910
1960.
60.
Point de vue vêtements, on prend plutôt exemple sur les parents plutôt que sur les blousons noirs.
C'était il n'y a pas longtemps, en vrai.
Depuis un certain temps...
Un humain d'aujourd'hui pourrait connaître ça, quoi. Enfin, pourrait déjà être né là, alors que ça, pour moi, c'est vraiment... C'est pas possible qu'à l'échelle d'une vie humaine, il y ait eu ça.
La disparition des boîtes à jeux.
Ah, c'est vrai, ça n'existe plus à trouver.
Alors, ceci n'existe plus à trouver.
Il y en avait toute une série sur la plage.
Et alors, puis la présentatrice, là, dans son intonation, elle parle comme la duchesse de je sais pas quoi.
Ah, votre attitude vis-à-vis de l'alcool.
C'est défendu au sein du club.
Ah bon.
Ça me stresse. Ils sont déjà vieux. Déjà.
Mais j'ai l'impression que ça, c'est vraiment propre à la classe riche. D'élever ses enfants pour qu'ils soient directement adultes. Je sais pas. C'est vraiment... c'est bizarre.
Ils savent s'exprimer. Bah, déjà, ils sont à l'aise, hein, comme ils parlent. Ils savent bien tout, faire les bonnes liaisons. Ça, après, je sais pas c'est dû à quoi. Hein. Peut-être que maintenant, même ceux qui font des bonnes études, ils savent parler comme ça, je pense.
Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler, qui est quand même beaucoup plus propre, on va dire, à la langue française, plutôt que celle qu'on emploie aujourd'hui, justement, qui est assez déformée.
Vous demandez, est-ce que si les enfants n'ont pas très bien travaillé pendant le trimestre, est-ce que les parents peuvent laisser passer Noël ou les fêtes de fin d'année sans marquer le coup quand même,
hein? Ma vie, si on n'a pas bien travaillé pendant le trimestre, on devrait quand même avoir son Noël.
Ah,
oui, moi aussi,
vie,
je suis tout à fait d'accord avec
vous.
C'est pas parce que j'aime les jouets, mais...
Silence, Françoise.
C'est pas parce que j'aime les jouets, ni les petites...
Les douceurs.
Les douceurs, mais... Je trouve, c'est, on le fait déjà depuis 13 ans comme on le fait à moi, on ne devrait pas quitter ça au bout de la 13e année, qu'on devrait continuer jusqu'à ça.
Mais en lui donnant son Noël, on l'encourage à mieux travailler.
Les parents doivent passer l'éponge un petit peu parce que oui. Noël, c'est pas tous les jours.
Oui, mais... Par exemple, ce que je trouve qui est très mal de la part des parents, c'est qu'on donne les jouets à la fille ou au garçon et puis qu'on lui retire. Moi, ça, j'ai déjà vu ça. Oui. On donne les cadeaux et puis on lui dit bon, mais tu travailles mal, oui. Et ben, je te
dans ce cas-là, vaut mieux pas les donner du tout. Ça serait
exactement la même chose. On trouve le père et la mère jouant à la poupée le soir.
J'ai l'impression qu'ils parlent quand même très bien pour des enfants. Mais du coup, je pense que ça découle de l'éducation, hein, en vrai. Mais
j'ai l'impression que dans la voix. Dans l'intonation, dans ce côté... chez les enfants, on a une assurance qui est assez troublante. J'ai l'impression que peut-être ces enfants, n'ayant pas la parole aussi facilement qu'on peut l'avoir aujourd'hui, pour donner son avis sur les choses, pour participer au débat familial, peut-être que lorsqu'ils avaient justement la possibilité de s'exprimer, leur intonation, le vocabulaire qu'ils utilisaient reprenait beaucoup de celui de leurs parents. Parce que peut-être qu'ils avaient écouté beaucoup.
Ouais, j'ai l'impression qu'elle veut imiter les dames un peu.
Et pourquoi ?
Pour avoir la même image qu'elle.
Et tu penses que les enfants, ils imitent pas les adultes en général ?
Si. Mais peut-être que les petites filles d'aujourd'hui, elles imitent les dames d'aujourd'hui.
Et si je dois comparer avec aujourd'hui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus tolérant dans l'expression de ces enfants, dans leur bagou, dans leur vocabulaire. Et c'est peut-être pour ça que les extraits nous surprennent. Parce qu'il y a une rigueur dans le choix des mots et
maintenant, avec du recul, peut-être qu'on trouve que les enfants parlent bien. Par exemple, là, la jeune fille, elle dit « eh bien ». « Eh bien », c'est un enfant. C'est rare, quoi. Une jeune fille qui dit « eh bien » à 10 ans. Étant donné que les enfants de l'époque sont aujourd'hui adultes, les entendre parler de la manière dont parlent des adultes aujourd'hui, avec les tics de langage de leur époque qui sont finalement pas vraiment partis, on se dit « waouh, qu'est-ce qu'ils parlaient bien ». Non, ils parlent comme les adultes maintenant, qui sont censés être les arguments d'autorité.
C'est une autre manière de s'exprimer, je pense.
C'est-à-dire une musique concrète à l'heure actuelle, c'est une expérience.
C'est une expérience, mais...
Mais je crois que c'est seulement une question d'habitude.
Toute musique est expérimentale.
Parce que de toute façon, il n'y a pas de musique concrète et de musique traditionnelle.
La musique, comme tous les arts, elle s'insère dans une certaine société, dans une certaine époque.
La musique de Mozart s'insérait dans son époque, comme la musique concrète à l'heure actuelle, mais du temps de Mozart, on appréciait beaucoup plus Mozart qu'à l'heure actuelle, on apprécie Messiaen.
De toute façon, les hommes contemporains reculent, je crois, beaucoup devant le progrès, peut-être par tradition, peut-être par conformisme.
Je dirais peut-être vers les années 60 ou 70.
Bravo, 69.
Je trouve que la façon dont ils s'expriment déjà est très différente. Ils ont l'air vraiment d'être totalement à l'aise dans ce qu'ils disent, en fait. Ils ont suffisamment de connaissances pour pouvoir débattre sur le sujet. Donc, bon, moi, je n'ai aucune connaissance en musique, donc je ne pourrais pas vraiment prendre de parti. Mais c'est sûr qu'il y a une différence qui est majeure et il y a un vrai fossé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je trouve que quand des élèves de mon âge parlent, c'est beaucoup moins fluide, déjà. Et le vocabulaire employé n'est pas aussi élaboré, on va dire.
Je pense que c'est des Parisiens. Ils s'expriment mieux, déjà leur vocabulaire a l'air plus riche. Et la façon dont ils parlent, ils ont une prestance.
Il y a cette manière de parler qui revient tout le temps, et qui est cette manière de poser sa voix, des accents super forts sur certains mots, je ne saurais pas exactement dire où, enfin, j'arrive pas à...
Comme s'il y avait...
À entendre concrètement.
Il y avait une note dans leur voix.
Mais quelques formules qui sont un peu décalées, qu'on ne dirait pas aujourd'hui, mais si on s'attache vraiment à ce qu'ils disent, il ne semble vraiment pas que c'est spécialement châtié ou spécialement soutenu, en tout cas.
J'ai peut-être compris une chose, c'est qu'ils insistent bien sur les syllabes à la fin, mais énormément. Je viens de le voir là. Il a par exemple dit « en ce moment »,« occasionnellement ». Je pense que c'est ça, hein, qui fait qu'ils ont une intonation assez réfléchie, peut-être.
Mais alors, si on avance un peu dans le temps et qu'on écoute les jeunes des années 80, est-ce que leur façon de parler est de plus en plus comme la nôtre ?
David, Antoine, Julien, 17 ans.
Les petites copines, c'est pas toujours les petites copines. Le problème, c'est d'être bien avec une fille. Mais bon, heureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Je veux dire, ça arrive peut-être peu dans le début de l'adolescence. J'entends entre 13 et 16 ans, puis de plus en plus. Je pense que ça va devenir un phénomène assez constant jusqu'à 25 ans. Ensuite, il va falloir trouver quelqu'un ou pas trouver. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est fantastique. Je pense que vraiment, c'est un des soleils de la vie parce que c'est un des moments où on est le mieux, c'est quand on est avec une copine. la sexualité, les filles, c'est... on en parle tout le temps, vraiment tout le temps. Et c'est très, très, très important. Voilà.
C'est sûr qu'on vit beaucoup pour les filles, pour la sexualité. Ça change tout, quoi, d'avoir une amie, surtout au niveau de l'amour, je veux dire, pas physique. C'est le fait d'aimer quelqu'un, ça change vraiment tout. Et de bien s'entendre avec cette personne et de la voir souvent, et ça représente facilement, quand ça arrive, 50% du bonheur qu'on ressent à ce moment, même, je dirais, beaucoup plus. Ça dépend des cas.
On dirait qu'il parle d'économie, genre phénomène constant, 50% du bonheur et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis choqué là. Mais après, en même temps, ça fait un contraste parce qu'ils disent oui, c'est la plus belle chose qui soit et tout. Alors que ça, aujourd'hui, je vois pas un jeune de nos jours dire ça. Enfin, nous, on dirait ouais, bah t'es bien quand t'as une meuf. Enfin, genre. Ça paraît peut-être plus naturel pour nous, je sais pas. On voit quand même qu'ils sont plus romantiques et tout. En mode, ils sont là, ils font les poètes un peu, quoi, genre.
Mais après, ouais, c'est le but, ouais, c'est dans le contexte, dans un interview, c'est une bonne manière de parler, je trouve. Après, c'est beaucoup par rapport aux parents, c'est la manière de parler, c'est comment ils parlent à la maison. C'est pour ça que je dis ça, quoi. Il y a certaines personnes dans les lycées publics qui savent le parler parce qu'ils parlent comme ça avec leur père. Mais quand ils sont avec d'autres gens dans un lycée ou dans une école, ils veulent s'inventer une autre manière de parler, alors que chez eux, ils parlent d'un bon langage.
Mais tu préférais qu'ils parlent comme à la maison ? Tu trouverais ça plus honnête ?
Ça serait bizarre un peu. Ça serait... Parce qu'en fait, c'est plus du tout la manière de parler de maintenant, quoi. Ça veut dire... Ça peut être... C'est facilement compréhensible, parce que... S'ils parleraient vraiment comme... d'un langage trop soutenu ou autre, ils se feraient pas vraiment comprendre, et...
Ouais. Moi, je l'ai vu, ouais. Des fois, tu sais, ils font un peu semblant de parodier le... Genre, tu sais, comment on parle bien. Genre, à un prof, par exemple, il va lui parler bien, et tout le monde va rire, c'est trop drôle, c'est trop marrant, mais c'est pas marrant, genre... Tu vois, c'est... Genre, à part si tu parles comme au 14e siècle, tu vois. Bon, d'accord, c'est marrant, mais si tu parles juste en soutenu, langage soutenu, quoi, et que tout le monde se moque de toi, t'es sûr qu'après, tu vas pas le faire sérieusement, tu vois. Mais c'est trop dommage.
Par exemple, il peut m'arriver de prendre la parole auprès de personnes que je connais assez peu, et tout de suite, je vais être regardée avec de grands yeux parce que je n'ai pas la même façon de parler. Et il y a un regard de rejet, finalement. Parce qu'il faut se fondre dans la masse et on ne comprend pas pourquoi cette personne-là ne ressemble pas aux autres.
Très dans la norme, oui et non. Parce qu'au contraire, je ne voudrais pas être dans la norme. J'essaye le plus possible d'être pas comme les autres parce que je ne voudrais pas me mêler dans la foule, avoir un millimètre de plus haut que la norme, comme on dit. Alors pour ça, j'essaye... J'ai plusieurs moyens, vestimentaires d'abord. Par exemple, j'ai une casquette en tweed. Normalement, on ne met pas des casquettes en tweed.
Non, mais ça vous va très bien.
Tu fais te voir, je ne l'ai pas vu, moi.
Vous pouvez la mettre.
Ah oui, c'est pas mal. Elle est très jolie, c'est très anglais.
Et normalement, on met des casquettes en velours, mais pas en tweed.
Très, très belle.
Oui.
Fait très golfeur, et superbe, écossaise.
Oui. Il mesure quand même 1m62 à 12 ans. Hein. Il est grand comme vous. Hein.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Non, parce que dans mon lycée, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, habillés un peu n'importe comment, alors on s'y habitue. Enfin, j'essaye d'être habillé plus n'importe comment que les autres encore.
Donc il y a une escalade à ce niveau-là.
Oui, ça peut aller loin.
Enfin, vous n'êtes pas habillé n'importe comment, vous êtes drôlement chic, au contraire, une casquette en tweed. Il y a un petit pull vert jacquard, de la même couleur que la casquette. Il y a une chemise, et pratiquement de la même couleur que...
Oui.
Dans les verts,
que le pull.
Tandis, bah oui, mais justement, je suis habillé chicement, les autres ne le sont pas,
faites
ça doit être ça.
Faites voir la couleur de vos yeux, exactement de la même couleur que la casquette, le pull et la chemise. Et en dessous, c'est comment je me baisse sous la table.
Oui, il fait pas ça quand il y a des jeunes filles, heureusement.
Oh, un blue jean.
Ils apportent beaucoup plus de détails, j'ai l'impression. Je pense qu'ils connaissent tout simplement plus de mots. Ou même pas, s'ils les connaissent, ils utilisent plus de mots. Ils pratiquent plus de mots, ouais. Voilà. Peut-être qu'avant, on apprenait beaucoup plus le français... Il y avait beaucoup. Enfin, aujourd'hui, on a plein de matières et tout, genre SVT, physique, machin et tout, et on fait un peu de tout. Déjà, il y a ça. Et puis, sinon, dans la manière de parler aussi, On dirait qu'ils se prennent grave au sérieux, du coup. Mais après, ça, c'est l'impression qu'on a par rapport à aujourd'hui. Sûrement qu'à l'époque, c'était normal. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un de notre âge qui parlerait comme ça, tout le monde se dirait, mais il croit qu'il présente les infos ou quoi. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire?
Mais bien sûr, enfin, même moi, je mets rarement les négations, et toi aussi, j'imagine, parce que ça fait tout de suite super guindé. Donc tu t'adaptes toujours, effectivement... pour pas te mettre à parler de manière un peu ridicule. Donc effectivement, ça, sur le coup, ça serait un peu un appauvrissement, parce que c'est pas français de pas mettre les négations. En même temps, si tu sais les mettre à l'écrit, c'est pas terrible de pas les mettre à l'oral, quoi. Après, c'est toujours le truc... Je sais pas si c'est actuel, je sais pas si c'est un mauvais rapprochement de dire ça. Il y a un peu ce mépris des élites, etc. Et donc l'idée que de parler de manière un peu trop guindée, non. Peut-être de parler correctement, mais que ça devienne un peu ridicule. Enfin, trop correctement, en tout cas. Ça serait... quel snobisme, c'est ridicule, pour qui se prend, quoi. Bon, moi, j'en pense pas grand-chose. Je m'adapte et tout le monde s'adapte, mais je pense pas qu'il faut voir ça comme quelque chose de mal. C'est juste une évolution de la langue. Les négations n'ont pas disparu pour autant. On les retrouve toujours dans les bouquins sans que ça soit absurde. Je sais pas, dans les années 60, de ce que tu m'écoutes, on parlait pas non plus au passé simple. Donc la disparition du passé simple dans le langage oral, c'est pas la conséquence d'un appauvrissement de la langue. C'est un peu ridicule de parler au passé simple parce que... On n'est pas dans un bouquin, et ça, je trouve ça pas du tout mal, en tout cas personnellement.
Peut-être qu'aussi avant, à la radio, ils interrogeaient l'élite. C'est pour ça qu'on n'a pas de traces de personnes qui parlaient différemment avant. Je pense qu'aujourd'hui, ils veulent plus se rapprocher de leur public. Du coup, ils parlent un peu comme eux. En général.
Et tu trouves ça bien?
Ouais. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Comme ça aussi, les gens qui les écoutent, ils peuvent d'une certaine manière s'identifier à eux. Si on s'identifie pas à la personne qui nous parle, Le passage de l'information, je pense qu'il serait un peu plus compliqué.
Parce que je pense qu'il y a la connaissance du fait que pour toucher le plus grand nombre, il ne faut pas forcément utiliser les mots les plus précis qui ne sont pas forcément les plus connus ou les plus accessibles. Donc, je ne sais pas, vous lisez du Victor Hugo, il a le mot parfait pour tout. Quand il va utiliser un vocabulaire super précis pour des trucs de construction, de menuiserie, il va utiliser le bon mot, au final, moi, j'ai du mal à me projeter la construction de Notre-Dame avec les outils de l'époque, vous voyez. Et donc peut-être qu'on perd la richesse d'un vocabulaire qui serait pas forcément compris de tous.
Armel, vous êtes une des habituées de ce Métropolis. Pourquoi aimez-vous cette boîte?
Moi j'aime cette boîte parce que d'abord il y a une ambiance vachement jeune. Il y a toujours des gens qui sont entre 18 et 25. Alors on danse le jerk, et puis il y a des orchestres, alors ça chauffe et puis on tape des mains.
Justement, pourquoi aimez-vous le jerk?
Parce que c'est une danse qui détend énormément. Je trouve ça assez sympa.
Et les garçons qui ont des cheveux longs, vous trouvez ça aussi très bien?
Oh, c'est pas tellement que je trouve ça très bien, mais je trouve ça marrant, quoi, ça change un peu.
Et il faut changer, selon vous.
En 2021, qui dit encore qu'il va danser le jerk? Les mots des jeunes se démodent aussi vite que tourne la boule disco du Métropolis. Pourquoi le langage des jeunes change-t-il si vite? Est-ce pour ça qu'il nous préoccupe tant? Dans le prochain épisode, quittons un moment nos jeunes experts et donnons la parole à ceux dont c'est le métier de l'analyser, ce fameux langage. De l'argot des blousons noirs à celui d'aujourd'hui, comment comprendre son histoire, son évolution et sa place dans notre imaginaire?
À suivre sur arteradio.com.
Ça brûle pas du tout quand vous faites pipi.
Bon.
Et les copines, vous avez pu leur en parler?
J'en ai parlé à deux, trois, mais...
Attendez, deux, trois, parce qu'il y en a d'autres. Aïe, 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 aïe. Bon, attendez, vous avez... Là, il y en a combien, en vrai? La dernière fois, m'avait dit qu'il y avait trois copines.
Ouais, et j'ai quatre copines que je vois régulièrement.
Quatre, alors c'est pas trois, c'est quatre.
Ouais, mais la quatrième, c'est ma vraie copine, quoi, donc...
Oui, mais enfin, à partir du moment où vous aviez des relations sexuelles avec une fille... Sans préservatif, il y avait un risque que vous transmettiez cette maladie. Et cette maladie, chez une fille, c'est du très sérieux parce que ça risque d'entraîner une stérilité. Vous imaginez ? C'est grave quand même. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Ouais. Et puis, ces filles, si elles ne sont pas soignées, elles vont le transmettre à d'autres garçons. Et là, où on va là ?
Je leur ai dit, mais il y en a 10 qui vont aller voir le médecin, il y en a 10 qui pour l'instant n'ont pas le temps. Et ma copine, sinon, elle a vu son médecin et lui a donné des antibiotiques.
Elle a quel âge, votre copine?
Elle a 19 ans.
Elle a une contraception ou pas? Vous ne lui avez pas posé la question? Et vous n'utilisez pas le préservatif? Donc alors, s'il n'a pas une contraception, vous allez être papa, c'est ça?
J'espère pas maintenant.
Bah oui, mais attendez, si elle a pas de contraception, qu'est-ce qui va se passer? Et vous lui avez pas posé la question?
Non.
Et ben, ce sera le moment de faire le point avec elle. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, ça c'est la copine. Donc, elle est pas au courant que vous n'êtes pas très fidèle, hein?
Non, elle est pas au courant, mais
là, bah, c'est... je trahis pas, moi, évidemment, hein, faut parier.
Non, là, c'est fini, j'arrête, j'en ai marre, c'est bon.
Comment ça, c'est bon?
J'arrête les 24 copines.
Il y en avait 24, vous arrêtez?
Non, quand même pas 24, mais...
Il y en avait beaucoup, quoi.
Espace Santé Jeune, bonjour.
Oui, pour un jeune qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est la première fois.
Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.
Bonjour, docteur Vernon à l'Hôtel Dieu. Eh bien, moi, je vous téléphonais parce que j'aimerais bien voir votre fille. J'ai eu effectivement des nouvelles d'elle par l'association qui s'en occupe. Rappelez-moi, s'il vous plaît, à l'Hôtel Dieu. Oui ?
Ah, vous êtes...
Oui, non, dites-moi.
Parce qu'il y a l'éducateur de médecine.
Eh bien, vous me le passez. Là, je raccroche. OK. À bientôt. Oui. PV chlamydia. Ah non, attendez, ce que je voulais dire, un PV tous azimuts plus les chlamydiés.
Il y a ces PV et chlamydia.
Il y a les deux à faire. Alors.
Là, Madame Vernon a demandé à ce qu'on fasse trois autres examens. Alors. Est-ce que vous savez ce que c'est que le vagin chez la jeune fille? Non? Bon, alors je vais vous expliquer. Le vagin, c'est l'endroit, enfin l'orifice par lequel vous avez des rapports sexuels. Parce qu'on peut avoir des champignons dans le vagin. Celui-là, c'est pour rechercher une bactérie plus particulière qui s'appelle la chlamydia. Vous avez déjà entendu parler?
Non.
Et ça fait partie de ce que l'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Et c'est une bactérie qu'on retrouve assez fréquemment chez les jeunes gens et les jeunes filles. Donc c'est pour ça qu'on fait un test de dépistage pour la rechercher. Ça va ?
D'accord, oui.
Oui ?
Mais en fait, là, il y a un problème.
Lequel ?
Je ne peux pas faire ça.
Vous pouvez pas le faire ?
Oui.
Vous préférez qu'on demande à ce que ce soit fait en gynécologie ?
Oui.
Allô? Allô? Oui, bonjour, comment allez-vous?
Pas très bien, parce que
J'ai pas trop de nouvelles de ma fille. Je pensais que vous alliez m'en donner.
La dernière fois que vous avez vu votre fille, c'était quand?
Bon, ça remonte à plus d'un mois.
Ah bon?
Ah oui. Donc elle est tombée sur quelqu'un de pas bien du tout. Et puis bon, bah moi je vis dans l'anxiété parce que je l'ai vue plusieurs fois avec l'œil au beurre noir, des coups. Si un jour vous l'avez en visite, auscultez-la, vous verrez, elle est pleine de bleu.
Il y a une solution, c'est il faut porter plainte contre cet homme.
J'ai pas ses coordonnées, docteur.
Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les coordonnées de cet homme pour porter plainte contre lui. La police devra faire son travail. Évidemment, elle ne veut pas entendre parler de plainte contre lui parce qu'elle sait qu'il risque la prison. Mais c'est sa place, hein. C'est sa place à cet homme. Il faut agir avant qu'elle soit majeure.
Bon, je vais aller au commissariat parce que j'ai repensé à autre chose aussi. C'est qu'Ornella lui a dit qu'elle avait touché de l'argent au mois de mars prochain, c'est 18 ans. Vous savez, elle a touché un petit capital comme son papa est décédé. Bon, bah, à mon avis, elle est très intéressée. Hein. C'est quelqu'un qui travaille pas, qui vit de briques et de broc. Donc, à mon avis, là, il va l'utiliser là-dessus aussi. Hein.
You are going with Françoise. To do vaccination.
Bonjour.
Ok.
Rentrez.
And then you come back here, and I do the blood test. Do you understand?
Yeah.
Yes. I explain to you. Okay.
Voilà. On y va.
We go.
Venez. Dire docteur, Ornella m'a appelé un jour en me donnant un numéro. Donc j'ai appelé, c'était le numéro avec le répondeur du type là.
Mmh. Ah donc vous avez gardé ce numéro?
Oui, j'ai ce numéro.
Alors quand vous allez porter plainte, vous avez quand même un élément objectif pour localiser cet homme.
J'ai pas pensé à. Oui, tout à fait.
Donc surtout, donnez à la police ce numéro.
Donc j'ai pu avoir Ornella. Il était entendu que je devais déjeuner hier avec Ornella.
Oui.
J'ai pas eu de nouvelles d'Ornella. J'ai relaissé un message sur le répondeur. Donc, je me demande si la séquestre. Ou alors, je me suis dit, elle a été frappée, elle n'a pas voulu se montrer comme ça.
Bon, est-ce que vous avez parlé avec la psychologue qui s'occupe d'Ornella dans cette association?
Non, Ornella ne veut pas.
Mais c'est pas parce que Ornella ne veut pas. Ornella est en danger. C'est vous la maman, c'est vous la majeure. Ça n'est pas à elle de décider. Devant une adolescente qui est en danger, on écoute plus ce que l'adolescente dit.
J'ai appelé la ZE, j'ai appelé son...
Alors je vais vous donner le numéro de téléphone de la psychologue et vous allez l'appeler et vous n'avez pas à demander l'autorisation de votre fille. C'est plutôt votre fille qui devrait vous demander des autorisations,
oui.
Si vous voulez bien. Hein, on ne va pas renverser les rôles. D'accord? Il faut lui sauver la peau, hein. Donc vous allez porter plainte contre cet homme. Pas de main courante, madame. Une plainte. Elle est mineure. Et il faut que la brigade des mineurs s'en saisisse.
D'accord. Bah je vais appeler... De toute façon, je vais les appeler, la brigade des mineurs.
Et d'accord. Puis, vous pouvez me rappeler quand vous voulez.
Oui, d'accord, docteur. Bon, bah, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir, madame.
Au revoir, docteur.
Insensé.
Dans le prochain épisode...
Elle est mineure, elle a 17 ans, elle est en danger. Enfin bon, vous faites comme votre conscience vous le dicte. N'est-ce pas?
À suivre sur arteradio.com.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage. Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!